T'es avec nous sur VOA Afrique.
Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le nouveau gouvernement de la RDC, nommé le 12 avril, est plus féminin que le précédent, avec 14 femmes pour 56 hommes, soit 27%. Eve Bazaïba a été nommée ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Les femmes ministres d'État sont Rose Mutombo et Adèle Kaïnda. Respectivement à la justice et au portefeuille, Ndouzi Ntembe est en charge de l'emploi, Antoinette Kipoulou de la formation professionnelle, Catherine Foura est à la culture, Nana Kiumba à la présidence, Gisèle Louséba s'occupe du genre, Antoinette Samba des mines et Anne-Marie Karoumé des relations avec le Parlement. Irène Essambo est ministre déléguée aux affaires sociales et actions humanitaires. Elle est vice-ministre sont Aminata Namassia, 27 ans, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Véronique Kilumba à la santé et Séraphine Koutouna à la défense. Depuis le 30 mars dernier, le gouvernement espagnol, jusqu'alors strictement paritaire, est majoritairement féminin, avec 12 femmes pour 10 hommes. Et ses 4 vice-présidents se sont occupés par des femmes. Seul cas au monde, selon le Premier ministre Pedro Sanchez. L'Espagne est devenue le 6e pays du monde ayant la plus grande proportion de femmes au gouvernement et le 4e dans l'Union européenne. S'est félicité Monsieur Sanchez. La maison mère britannique d'une entreprise détenant des plantations de thé et de noix de macadamia au Malawi est poursuivie en justice à Londres pour des violences sexuelles à l'encontre de ses travailleuses. Ces Malawites souhaitent obtenir une réparation financière de la part de leur employeur direct, Lugerity Estates et de PGI Group Limited. Elles accusent devant la haute cour plusieurs responsables de plantations de plus de 10 faits de viol et autres violences. En février dernier, un cabinet d'avocats avait obtenu du fournisseur alimentaire britannique Camellia un accord à l'amiable de près de 7 millions de livres pour des accusations similaires au Malawi et au Kenya. La pandémie de Covid-19 a brisé la vie de millions de femmes et de filles et accentué les inégalités en détruisant un grand nombre d'acquis. a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture du forum Génération Égalité à Mexico le 29 mars. Cette rencontre internationale organisée par ONU Femmes, le Mexique et la France doit se poursuivre à Paris fin juin. Dans de nombreuses régions, le concept d'égalité entre les genres a été attaqué. Les lois régressives sont de retour et les violences sexistes augmentent, a souligné M. Guterres en présence de la directrice d'ONU Femmes, Fumzile Mlambo Nkuka. Le forum est axé sur l'implication de la société civile dans la promotion du genre. Le programme d'engagement sera discuté à Paris du 30 juin au 2 juillet en vue de mettre en œuvre un plan d'action concrète.
Parole de femme.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les femmes entrepreneurs du Togo multiplient des stratégies pour que leur société ne tombe pas en faillite, rapporte notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis le 6 mars 2020, où le premier cas de COVID-19 a été déclaré au Togo, le tissu économique a subi un grand coup, comme partout ailleurs. Les femmes, chefs d'entreprise, n'ont pas été épargnées. C'est dans ce contexte que le marché de recyclage et de la valorisation est à l'arrêt. Judith Gbalibo à l'arrêt, promotrice du Mariva.
Mariva, un concept où des gens qui avaient des vêtements qui ne les portaient plus, ils les cédaient à des prix vraiment dérisoires. Et d'autres personnes venaient les acheter et c'était vraiment en plein envol quand la pandémie, qui n'a pas du tout prévenu, est arrivée. Et donc depuis le 21 mars 2020, la boutique de Mariva a été fermée.
Comme Judith Gbalibo à l'arrêt, d'autres entrepreneurs togolaises grincent les dents.
Étant dans le domaine du voyage, nos activités ont été arrêtées courant mars jusqu'en août où on a réouvert l'aéroport international de Lomé. Donc on va dire que notre entreprise a été réellement touchée.
Nous sommes dans un secteur d'artisanat, donc très porté sur l'exportation. Nous faisons nos chiffres d'affaires essentiellement sur les événements foires internationales, etc. Et vu que les frontières sont fermées, donc il y a un pan entier du marché qui s'est fermé aussi.
Contrairement à beaucoup de start-up dirigées par les femmes qui ont été sérieusement impactées par le COVID-19, la boutique de vente de produits locaux Togo Simé, elle, se frotte les mains. Lucia Ala Asogba, fondatrice de Togo Simé.
Comme les frontières sont fermées, les produits importés n'arrivent pas, les Togolais étaient obligés de se replier sur les produits locaux. Et bim, tout le monde affluait. On est arrivé à tirer le meilleur de cette situation. C'est pas encore fini, mais on continue toujours pas à trouver des stratégies pour pouvoir y arriver.
Ces entrepreneurs ne veulent pas baisser les bras. Elles sont en pleine réflexion pour relancer leurs activités, et ce, malgré le Covid. Dédé Onamienso, directrice de Expressia Holding, une agence de voyage et de tourisme.
Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, ils peinent aussi à partir. Donc on essaie de voir si on ne peut pas développer un tourisme de proximité, de dénicher des endroits vraiment magnifiques et de les proposer aux Togolais.
On est en pleine réflexion sur comment relancer l'activité, parce que si la pandémie va durer, disons 5 ans, on ne va pas attendre 5 ans pour relancer.
Judith Gbalibo Lari.
Moi, ma devise, c'est que je ne serai jamais à court d'options.
Face au COVID-19, ces combattantes togolaises ont compris que le mot d'ordre est la résilience. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Gabon, l'égalité homme-femme est en passe de franchir une nouvelle étape. Le gouvernement a adopté en mars dernier un projet de loi modifiant le code civil. Cette modification réduit le rôle proéminent de l'homme et donne plus de droits à la femme. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le texte en cours de révision au Parlement prévoit des dispositions qui suppriment les droits d'époux prévus par l'ancienne loi. Dans un couple, le mari doit désormais partager son rôle de chef de famille avec la femme. Il perd également le monopole de l'administration légale des biens d'un mineur non émancipé pour le remplacer par un exercice commun. La femme gabonaise est dans le même texte exemptée de l'obéissance due à son époux. De quoi susciter une levée de boucliers au sein d'une partie de l'opinion nationale. Pour Jean-Pierre Ondama, membre de la société civile, le texte adopté par le gouvernement vient corriger les injustices du passé.
Dans nos sociétés, par exemple, on préfère scolariser les garçons, mais la femme reste à la traîne. Donc, ce n'est pas normal.
Norbert Mba, fonctionnaire à la retraite, lui prédit déjà un échec.
On fera semblant d'ajouter un tout petit peu, mais sinon l'homme voudra toujours damer le pion.
Bien que faite pour l'intérêt des femmes, elles ne semblent pas toutes emballées par les avantages de cette réforme qui leur rendent pourtant justice dans les ménages. Lady Sonia est coach en développement personnel.
Mon mari, c'est mon équilibre. Je suis une femme d'influence, je connais ma place, je connais mes priorités. Mon homme, c'est mon homme.
Les projets de loi introduits dans le nouveau code civil butent sur les différences d'interprétation. Si l'on en croit Honorine Zebi TV, elle est juriste.
Quand on dit que l'homme n'est plus chef de famille, ça veut tout simplement dire que lorsque vous êtes dans la maison, vous faites tout à deux. Vous prenez des décisions à deux. Au moins, vous vous reconnaissez dans ce que vous dites.
Quelques semaines après l'annonce de la réforme du code civil pour plus d'égalité entre les sexes, le gouvernement privilégie la pédagogie sur les zones d'ombre du projet de loi. Rose Christiane Usukara-Ponda, première ministre.
Il était temps qu'on renforce un peu cette protection justement des femmes en éliminant de manière progressive les discriminations et les violences dont fait preuve ces femmes.
Le texte doit être soumis pour examen au Parlement avant son adoption. C'est ensuite qu'il sera promulgué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Au cours de l'histoire des États-Unis, les premières dames ont exercé une certaine influence politique. Les Américains vont découvrir les initiatives de Jill Biden après celles de Melania Trump, qui avait notamment lancé le programme Be Best, visant à sensibiliser la jeunesse contre le cyberharcèlement et la crise des opioïdes dans le pays. Dans son reportage, Dora Mekouar a donné la parole à deux historiennes, Catherine Jellison et Kate Anderson. Le récit est de Gabi Dorsil.
L'actuelle première dame américaine rompt avec la tradition en tant que première épouse d'un président à conserver son emploi pendant qu'elle est à la Maison Blanche. Jill Biden, qui a un doctorat en éducation, est professeure d'anglais dans une université communautaire près de Washington, D.C. Eleanor Roosevelt a été méprisée par certains pour avoir été une première dame militante qui a fait pression pour des droits civils universels et des programmes sociaux. Mais elle a établi une norme pour les futurs premiers époux.
Quand nous avons eu quelques premières dames de profil bas qui ont suivi immédiatement Madame Roosevelt, je pense que beaucoup d'Américains se sont dit « Nous voulons quelqu'un qui soit plus visible, une personne qui a au moins un projet majeur pour lequel elle se bat. »
Depuis que Jackie Kennedy a adopté la préservation historique dans les années 1960, chaque première dame a adopté au moins un projet de service public.
We got broccoli. We got spinach.
Alors que les premières dames sont souvent considérées comme des symboles maternels de la féminité américaine, l'histoire montre que ces femmes peuvent avoir une influence considérable dans les coulisses.
Melania Trump a fait virer un haut conseiller à la sécurité nationale dans l'administration de son mari parce qu'elle n'aimait pas la façon dont son personnel était traité lors d'un voyage à l'étranger par ses conseillers. Donc, elles peuvent également déterminer qui est autour du président. Nancy Reagan était vraiment le département des ressources humaines de son mari. Elle choisissait qui devait être inclus et qui était exclu. Prenons Hillary Clinton. Elle est l'une des raisons pour lesquelles Ruth Bader Ginsburg était à la Cour suprême. Elle a dit à son mari qu'elle pensait qu'elle ferait une excellente juge à la Cour suprême.
Les conversations privées entre mari et femme peuvent avoir un impact énorme sur le pays.
Donc, ces femmes sont vraiment fortes. Je pense qu'elles sont constamment sous-estimées. Et d'après moi, c'est en partie parce que les femmes dans notre société sont souvent sous-estimées. Je pense que nous allons dans la bonne direction en ayant Jill Biden en tant que femme active qui peut être les deux choses à la fois. Elle peut être une épouse en second rôle, mais aussi une femme forte.
Alors que Mme Biden redéfinit son rôle actuel, le plus grand bouleversement pourrait survenir une fois qu'une femme sera élue présidente des États-Unis et qu'un homme assumera le rôle de premier conjoint.
Les enfants du camp syrien d'Al-Hol sont de plus en plus radicalisés et doivent être rapatriés au plus vite en Europe, selon une personnalité belge, Heidi Depau, directrice de Child Focus, qui s'est rendue 3 fois dans ce camp, dit que les forces kurdes ont perdu le contrôle du site et que c'est le groupe État islamique qui a pris le relais. Ces propos font écho à ceux du Premier ministre Alexander De Croo, qui s'est engagé à tout faire pour rapatrier les enfants de moins de 13 ans. Ce camp accueille 62 000 personnes, en majorité des djihadistes syriens et irakiens avec leurs familles. Y sont également recensés environ 10 000 étrangers qui sont principalement des femmes et des enfants déplacés de Baghouz. Heidi Depau y décrit la présence de tribunaux appliquant la charia. Toutes les femmes portent le niqab, même des petites filles et des enfants jettent des pierres aux visiteurs. Selon des gardes kurdes, des adolescents sont mariées dès la puberté pour avoir des bébés.
Si jeunesse pouvait.
L'immigration clandestine se féminise, indique Interpol, soulignant que des routes maritimes alternatives et plus dangereuses sont empruntées à cause des mesures frontalières anti-Covid. Mais il faut d'abord traverser plusieurs pays pour se rendre en Libye, l'un des principaux points de départ des voyages clandestins vers l'Europe. La cinéaste guinéenne Isabelle Kolkolloa a rencontré des femmes qui ont été exposées à la violence au cours de leur périple.
Nous avons eu à avoir des témoignages de jeunes filles qui étaient emprisonnées même pendant le voyage dans le désert, qui sont obligées de payer leur voyage par leur corps ou qui sont échangées par les passeurs qui les exploitent. Il y a des femmes qui ont eu des bébés dans le désert mais qui sont revenues sans leur bébé.
Selon l'agence européenne Frontex, une femme et un enfant sur 10 migrants irréguliers quittent les côtes de l'Afrique. Les jeunes femmes sont ciblées par les réseaux mafieux de la traite des êtres humains qui utilisent des moyens d'immigration illégale plus élaborés que les passeurs locaux. Benin City, dans le sud du Nigeria, est la plaque tournante du recrutement des femmes transportées par ces réseaux. Nicole Biquez sensibilise des femmes et des filles à Conakry contre l'idée de se lancer dans la traversée périlleuse.
En Europe, la vie n'est pas aussi rose. Il y a beaucoup d'étapes à passer. Tu peux tomber sur des proxénètes, sur des personnes qui font la traite d'êtres humains, des dealers. Voilà, il y a plein de choses.
Selon l'OIM, la plupart des candidates à l'immigration clandestine ont généralement une activité formelle ou informelle et utilisent leurs revenus pour financer le voyage. Alors pourquoi aller risquer sa vie ? Tout en reconnaissant que les structures de réinsertion sociale existent dans son pays, Isabelle Kolkolloa renvoie la responsabilité en haut lieu.
Il faut que les autorités concernées par la situation s'impliquent dans la gestion de cette crise en donnant plus de possibilités à ces jeunes qui investissent dans, disons, le secteur tertiaire pour la plupart, et donc des petits commerces, des petites et moyennes entreprises.
La présidente du collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal, Yaï Bayam Diouf, a perdu son fils qui tentait de joindre l'Espagne par la mer depuis les côtes sénégalaises.
Dans mon pays, le gouvernement a mis en place des infrastructures pour l'employabilité des jeunes. Et nous, en tant qu'association, notre rôle est d'aller voir ces structures étatiques pour donner l'information à ces jeunes pour qu'ils s'engagent à aller les rencontrer.
Dans son film The Way, Madame Loi illustre l'histoire d'un jeune homme poussé à partir par sa propre mère alors qu'il veut rester dans son pays pour monter une entreprise.
Mais en réalité, il n'est allé nulle part. Il a juste pris les moyens avec sa mère pour financer le voyage. Et il a mis ses moyens à la disposition de son projet d'entreprise. Et il a quitté la maison, allé s'installer juste à quelques parties de maison de sa mère et investir dans son entreprise.
Au bout de 4 ans, le jeune homme décide de réapparaître pour tout avouer à sa mère qui le croyait en Europe. En attendant que cette histoire devienne réalité, de nombreux jeunes tentés par le départ périssent encore par milliers dans les océans.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Cameroun, les opérateurs du secteur de l'électricité ont annoncé des solutions d'ici fin 2021 pour améliorer la qualité du service public qui s'est dégradé avec des interruptions, des variations de fréquence et des incendies de circuits électriques. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, a rencontré des femmes et des jeunes qui subissent les caprices du réseau électrique pendant leurs activités quotidiennes ou leurs études.
Je m'appelle Nadine, je suis élève. J'ai eu coupure de courant 3 fois par semaine.
J'ai un restaurant. Parfois, les coupures de lumière à tout moment. Parfois, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Bon, moi, je suis au quartier Kono, particulièrement du côté du CEFTA. On est resté dans le noir pendant pratiquement 3 jours.
Des plaintes de ce genre sont enregistrées sur l'ensemble du territoire suite aux graves dysfonctionnements constatés dans la fourniture de courant électrique. De l'or, Magellan Kamsu Kamgeng, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
La Ligue camerounaise des consommateurs n'est pas contente du tout de ce qui se passe. Le consommateur a des difficultés à pouvoir mener à bien ses activités.
Dans le restaurant de Charlotte au quartier Bastos, l'un des huppés de la capitale, l'instabilité du courant électrique a causé des dégâts.
Quand j'ai un régulateur, ben là je suis en train de réfléchir à acheter un autre régulateur. Quand tu as un restaurant et que tu as le repas dans le congélateur, dès que ça fait pas toi-même, tu sais, comme si un câble avait sauté aussi dans ta tête. Ça ressemble au Cameroun, ça.
D'autres Camerounais ont subi des désagréments durant ces jours sans courant électrique. Nadine est élève et se présente à un examen officiel cette année.
Cela a impacté ma façon d'apprendre puisque je n'avais pas révisé mes leçons. Et si je le faisais, mais je le faisais avec une bougie et des fois avec la torche et un téléphone.
Cacharel, quant à elle, est une jeune employée d'une boutique spécialisée dans le cosmétique.
Téléphone déchargé, quand on met l'alarme dans le téléphone pour arriver au travail le matin, c'est pas évident. Obligé d'arriver en retard. Et il y a aussi les vivres que nous avons gardés, dont on a tout perdu en tout cas.
Dans certains quartiers de la capitale, comme celui de Léonel, les habitants craignent pour leur sécurité.
L'insécurité est presque partout au Cameroun. Et maintenant, dans un quartier comme celui où il y a tellement de bandits, des braqueurs, c'est pas évident.
Au Cameroun, c'est la société Eneo qui opère dans la distribution du courant électrique. Ses responsables expliquent que certains équipements sont surchargés du fait de la forte croissance démographique et les transformateurs sollicités au-delà de leur capacité de fonctionnement. Le gouvernement annonce que l'offre en énergie électrique va s'améliorer d'ici la fin de l'année. Gaston Elundu-Esomba, ministre de l'eau et de l'énergie.
Des actions de court et moyen terme sont également en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du remplacement de 53 000 poteaux bois défectueux par des supports en béton, du démarrage des travaux de construction de 230 km de lignes de distribution en souterrain pour améliorer la qualité de service dans les villes de Yaoundé et Douala.
La région du Nord a été particulièrement affectée par les difficultés de transport et de distribution du courant électrique. 2 incendies ont été enregistrés le mois dernier dans les 2 principaux marchés de la ville de Garoua. Un court-circuit causé par des coupures intempestives de l'énergie électrique a été à l'origine des flammes. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.